On va parler avec notre ami Patrick Derry, analyste en politique publique, qui a trouvé un scoop. Scoop qu'il a publié sur son compte Twitter. Il va nous expliquer tout ce qui touche les codes de couleur du gouvernement. Salut Patrick.
Salut Patrick.
Donc, on ne te demandera pas de nommer tes sources, mais tu as eu un scoop.
Ben oui, écoute, il a fallu que je sorte du journaliste pour avoir mon premier scoop.
C'est vrai que tu as été journaliste pendant quelques années, oui.
Oui, 10-12 ans. J'étais plus du côté là, de la production, mais quand même.
Ce que tu as eu, c'est ça, les documents internes là, qui vont plus loin que ce que le gouvernement a expliqué en matière de couleurs par région.
Oui, absolument. C'est là, on a les détails. Là. C'est un document qui a été présenté aux médecins spécialistes lundi dans le cadre d'un webinaire. Ça a été présenté par un représentant du ministère de la Santé, là, de la Direction nationale de la santé publique. Donc, contrairement à ce que dit M. Dubé aujourd'hui, qui a laissé entendre que c'est un document de travail là, qui datait de plusieurs semaines, là, la date dessus, c'est le 14 septembre. Mm. Puis c'est un employé du ministère qui l'a présenté. Puis, on ne réunit pas des centaines de médecins en ligne pour leur expliquer quelque chose qui n'est pas à jour.
Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans qu'on ne savait pas, Patrick?
Bien, écoute, on a les détails. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le gouvernement n'avait pas dévoilé ses seuils, des indicateurs numériques, si on veut, chiffrés notamment, là, ce qui permet de confirmer ça, à quand qu'on passe du vert au jaune, puis du jaune à l'orange, puis de l'orange au rouge.
Oui.
Ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose qu'on apprend dedans aussi, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement quand on change de zone.
OK. Donc, disons qu'on passe en zone orange. Là, OK. Là, on sait qu'on est en jaune à Montréal puis dans la périphérie. Si on tombe à orange, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi? Qu'est-ce qui va changer dans nos vies?
Bon, c'est ça. Là, c'est justement du jaune au vert, là, ça change pas grand-chose. Orange, c'est par exemple, les rassemblements pourraient être limités à 6 personnes plutôt que 10 présentement. Dans les lieux publics, la limite pourrait être fixée à 50 personnes au lieu de 250 personnes. Fait qu'on retourne un peu en arrière. Les bars et les salles à manger intérieures des restaurants pourraient être fermés, donc les terrasses restent ouvertes, quoique ça ne voudra pas dire grand-chose longtemps. Les sports de contact et les loisirs intérieurs pourraient aussi être interdits. Puis à chaque fois, j'utilise le conditionnel parce que le document souligne à grands traits c'est des restrictions potentielles. Donc, c'est pas définitif encore. Il pourrait y avoir aussi de l'ajout des masques dans les salles de spectacle, même assis. Présentement, c'est debout. On pourrait ajouter des masques dans les marchés extérieurs. Et le trait commun de tout ça, c'est qu'on semble vouloir éviter de retourner à un confinement qui soit complet, comme on a connu présentement. Mmh. Et le ministre aussi, d'ailleurs, s'est gardé une marge de manœuvre pour... Il a dit que ça pourrait être possible qu'on voit des sous-régions. Ça veut dire que, par exemple, la Montérégie, c'est grand. Puis si, à un moment donné, il y a une éclosion à Saint-Bruno, bien, c'est peut-être pas nécessaire de confiner Châteauguay. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir aussi. Là. C'est quelque chose qui a été évoqué par le ministre. Si on arrive dans une zone rouge, là, on va une coche plus loin. Ça ressemble un peu plus au confinement. C'est plus sévère. Mais encore là, il y a des choses qui restent ouvertes. C'est-à-dire que, bon, les rassemblements privés, ça, c'est terminé. Ça veut dire que c'est seulement les membres d'une même famille qui peuvent se réunir ensemble. Fait que ça revient comme au printemps. Les restaurants seraient fermés, sauf pour des commandes à emporter, puis on enlève les soins esthétiques et les soins de santé, sauf si c'est urgent. Par contre, les commerces, bibliothèques, salles de spectacle, services de garde même, ça reste tout ouvert. Donc, on cible vraiment les activités qui sont plus risquées. Il y a toute une charte qui est indiquée dans le document avec des indices de risque. Et ce qu'on cherche à fermer, c'est vraiment faire cesser. C'est des activités qui présentent plus de risques de transmission. Mais on ne veut pas aller vers un confinement complet comme on a connu. Donc, il y a deux niveaux. Il y a un niveau régional, puis après ça, il y a un niveau en fonction des activités.
OK. Toi, qu'est-ce que tu as appris là-dedans? Qu'est-ce qui t'a surpris?
D'abord, qu'on ne l'ait pas rendu public. Ça, c'est la première chose.
Oui, parce que ce que tu me racontes là, c'est pas, comment je te dirais, là, on n'est pas dans le gros secret d'État sale.
Bien, écoute, tu sais, on a parlé souvent en ondes, il y a une culture de non-transparence au Québec, puis où la politique aime ça, garder ça très, très proche de lui. Puis moi, c'est arrivé à quelques reprises là, que je me suis coltaillé avec des gens qui sont proches justement des communications politiques, puis disent, bien voyons, on ne peut pas dire ça, tu sais, on ne sait pas comment les gens vont réagir, ils pourraient avoir peur, ça pourrait être mal interprété. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses confiance aux gens que tu prétends diriger. Puis l'inconnu fait bien plus peur que d'avoir des seuils prévisibles. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait à quoi s'attendre. Et moi, j'ai aucun problème à ce que le ministre se garde une marge de manœuvre. Puis en fait, honnêtement, ça devrait être les directions de santé publique locale qui connaissent bien mieux les conditions du terrain. Oui. Mais qu'on agisse en fonction de ce qui se passe. Et si si mettons un problème là, en basse-ville de Québec, là, ben, touchez pas à Charlevoix, là, ça c'est correct. Là. Mais pourquoi ne pas l'avoir sorti plus tôt, qu'on puisse avoir une discussion, qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe, qu'on puisse gérer les attentes. Et là, on sait à quoi s'attendre. On sait qu'au-delà d'un certain seuil, ben là, il va falloir faire attention. Puis tu sais, ça va envoyer un message. Puis d'ailleurs, le ministre le dit, la stratégie des paliers de couleur, c'est aussi une stratégie de communication pour que les gens comprennent ça. Mmh. Fait que la meilleure chose, c'est la transparence, puis c'est correct. Donnez des chiffres publics, dites, c'est pas écrit dans le cité, c'est pas... ça se peut que ça change, ça se peut qu'on garde une marge de manœuvre, ça se peut qu'on s'ajuste. Tout le monde va comprendre ça, mais ça donne quand même une prévisibilité.
Et je note aussi dans ce que tu as révélé, là, dans les en termes de plan dans les cartons du gouvernement, le port du masque pourrait être imposé en classe si vraiment ça commence à chauffer grave. Là.
Oui, exactement. Et bon, là, la question, c'est encore pourquoi qu'on est en mode réactif. Tu sais, au printemps, j'étais sûr qu'on en viendrait à ça parce que partout où ça a été fait, ça a aidé. En Ontario, le port du masque est obligatoire en classe à partir de 10 ans. C'est le cas en Alberta aussi. C'est le cas dans plusieurs pays d'Europe. C'est le cas en Asie, même dès la maternelle. Les pédiatres américains le recommandent à partir de 2 ans. Tu sais, si on veut que les écoles fonctionnent bien et qu'on se ramasse pas avec un casse-tête logistique incroyable et plein de classes annulées, là, c'est une mesure qui demande pas grand-chose puis ça peut donner un coup de main. En tout cas, là, ça pourrait devenir obligatoire. Bon, je pense qu'on va le faire tout de suite sans attendre. Là, puis, tu sais, les enfants, ouais. Là, tu leur donnes des masques de super-héros, ils vont être bien contents.
Très bien. Merci, Patrick.
Plaisir.